Bonjour, se passerait-il enfin quelque chose? Plus d'un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement et les médias à sa suite semblent découvrir qu'il existe un sérieux problème de violence policière en France. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé qui puisse expliquer cet éventuel retournement? Et s'agit-il seulement d'une inflexion du discours ou faut-il en attendre de vrais changements dans la politique du maintien de l'ordre en France? Question que nous allons poser aujourd'hui, Juliette, en compagnie de nos trois invités.
Assa Traoré, vous êtes l'une des sœurs d'Adama Traoré, décédée en juillet 2016 des suites de son interpellation. Vous êtes membre du comité Vérité et Justice pour Adama, militante contre les violences policières, un combat que vous avez largement développé dans l'ouvrage Lettres à Adama, coécrit avec la journaliste de l'Obs Elsa Vigoureux. Doria Chouvia, vous êtes la veuve de Cédric Chouvia, livreur décédé le 5 janvier des suites d'une interpellation alors qu'il circulait sur son scooter dans Paris. Et Arié Halimi, vous êtes avocat au barreau de Paris, membre de la Ligue des droits de l'homme. Vous défendez de nombreuses victimes de violences policières et vous êtes aujourd'hui l'un des avocats de la famille Chouvia.
Alors, je parlais d'un retournement, c'est sur politico-médiatique, au moins apparent, c'est sur ce retournement qu'on va s'arrêter dans cette émission. Et on va commencer par les signes du retournement politique.
Oui, ces derniers jours, les discours politiques sur les violences policières ont, semble-t-il, légèrement évolué. Emmanuel Macron explique par exemple désormais être ouvert à des propositions pour améliorer la déontologie du maintien de l'ordre et il n'est pas le seul à infléchir son discours.
On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police.
Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de même professionnel des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance.
Pour autant, ce n'est pas la révolution au sommet de l'État et dans les déclarations publiques, on tente toujours à réfuter le terme de violence policière.
Vous avez assez longuement parlé des derniers incidents, mais il y a un mot, une expression que vous n'avez jamais utilisée, c'est violence policière. Pourquoi ? On a l'impression que vous n'aimez pas trop cette expression.
Je ne sais pas, l'aimer ou pas l'aimer. Mais la notion de violence policière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un système policier construit sur la violence. Et je vous le dis, il n'y a pas de système policier construit sur la violence.
Les violences policières, certaines seront condamnées, d'autres pas. Nous verrons bien, les tribunaux vont juger. Mais comment les jeunes peuvent-ils aujourd'hui avoir confiance dans la police? Je vous dis ça parce qu'à force, c'est vrai, on parle beaucoup de ces violences policières, à tort ou à raison. Tout dépend. Gabriel Attal, on est bien d'accord, à tort ou à raison.
On en parle beaucoup, c'est sûr.
Parfois à tort, mais parfois à raison.
Moi, je ne parle pas du terme de violence policière parce que je ne veux pas laisser le sentiment qu'il y aurait finalement...
Pas de violence policière. Non. Alors comment qualifiez-vous
le... Il y a des dérives.
Des dérives policières.
Il y a des dérives qui sont inacceptables.
Bon. Un tir de LBD à un mètre de distance, ça s'appelle une violence policière ou pas?
Moi, je connais pas aujourd'hui les circonstances exactes dans lesquelles ces vidéos sont prises. On aura peut-être l'occasion de discuter de ce qu'est la nature de l'information.
Vous n'avez pas à le dire, en fait.
Mais je vous le dis parce que moi, je peux pas accepter, et j'ai en cela un petit désaccord, je peux pas accepter qu'on puisse dire qu'il y a une violence, en quelque sorte une violence d'État policière qui serait... organisé et je crois pas qu'il y ait un policier, je crois pas qu'il y ait, mais au fond, de proche en proche, c'est ce qu'on finit par dire. Et je pense pas qu'on puisse dire dans un état de droit, dans une démocratie qui est extrêmement solide comme celle de notre pays, qu'il y a des violences policières comme s'il y avait de manière générale, de la part des forces de l'ordre, une attitude consistant à aller tabasser des manifestants systématiquement ou violenter des personnes sans raison.
Alors, on voit bien la bataille sémantique. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux ministres qui refusent ce terme de violence policière et qui disent « mais non, c'est une addition de dérives individuelles ». À partir de quel moment on peut estimer que l'addition de dérives individuelles fait système et permet de parler de violence policière? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'en pense que on a des vidéos, bien évidemment, mais on a une succession, une accumulation de violences importantes depuis très longtemps. Donc on a, il n'y a pas très longtemps, un édito du Monde, la semaine dernière, qui pour la première fois, et c'est assez notable, utilise l'expression, non pas uniquement violence policière, mais violence policière systémique. Donc il parle bien de système de violence policière.
Mais qu'est-ce qui permet de dire que c'est systémique ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'analyse des discours. Dans les manifestations, par exemple, bien évidemment, vous n'aurez jamais d'instructions spécifiques qui viennent du ministère de l'Intérieur ou du gouvernement disant « frappez, commettez des violences illégitimes ». Il n'y aura jamais d'écrit. En revanche, vous allez avoir, quand on analyse par exemple les instructions qui sont données en cours de manifestation, des mots comme « impacter », « allez-y, vous pouvez les impacter ». Vous pouvez frapper. Vous pouvez...
Ça, c'est les instructions radio qui sont données pendant les manifestations.
Première affaire, Rémi Fraisse en 2014, que j'ai eu à traiter aussi importante, il y avait eu des ordres de sévérité extrêmes. Vous savez, le langage administratif, ce n'est pas le langage courant. Déjà, ça ne passe jamais par des écrits pour se couvrir en termes de responsabilité, ça passe par des coups de fil et ça passe de manière verbale. Il y a tout un infralangage dans l'administration qui fait qu'on se rend compte in fine que toutes ces instructions qui ont été données, ou bien des absences d'instruction, parce qu'il peut y avoir une absence de cadre légal qui est fixé aux forces de l'ordre, et quand il n'y a pas de cadre, eh ben, ils peuvent directement commettre des violences, utiliser des armes, utiliser la violence plus que de mesures. Donc voilà, c'est cette absence de cadre, c'est également des instructions infraverbales, et c'est le fait qu'il y ait une succession, une multitude de violences, de mutilations et de morts, et de plus en plus de morts. Quand on a 3 morts sous un même ministre, on peut quand même se dire que ça commence à faire beaucoup et qu'il y a quand même système.
Est-ce qu'il faut aller plus loin et dire, par exemple, alors on en parlera peut-être plus loin dans l'émission, la fameuse affaire du RIO, c'est-à-dire l'obligation pour les policiers de s'immatriculer avec un numéro d'immatriculation visible, le fait qu'on voit très bien que l'immense majorité des policiers ne le portent pas, et on va dire l'indulgence de la hiérarchie à l'égard de ce défaut de port du RIO. Est-ce que pour vous, c'est aussi quelque chose qui... fait système, contribue à faire système ?
Bah oui, quand il y a, et on les voit d'ailleurs sur les vidéos, des fonctionnaires de police qui enlèvent le scratch de leur numéro d'identification avant les manifestations, bien entendu pour éviter d'être identifiés s'ils commettent des violences policières ou des infractions, et qu'il n'y a, et ça c'est reconnu par le ministère de l'Intérieur, puisque beaucoup de vos confrères ont posé la question au ministère de l'Intérieur, combien y a-t-il de sanctions disciplinaires pour les défauts de RIO que l'on voit à longueur de journée sur les vidéos. Et il a été répondu strictement aucune. Lorsqu'il n'y en a pas, alors que c'est une obligation déontologique et que ça devrait donner lieu systématiquement, et c'est M. Valls lui-même qui l'avait rappelé, sauf erreur de ma part, en 2013, il avait donné une circulaire précise, un défaut de RIO entraîne immédiatement une poursuite disciplinaire. Lorsqu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on a une tolérance et qu'il y a des instructions de tolérance et qu'on permet aux fonctionnaires de police de se couvrir d'éventuelles poursuites disciplinaires.
Assa Traoré, sur cette bagarre sémantique, dérive individuelle, violence policière, quel est votre jugement à vous ?
Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas dans un état construit sur la violence policière. Elle est construite sur une violence policière et nous avons un système, nous sommes dans un État aujourd'hui qui est répressif et très autoritaire et qui est assumé par ce gouvernement. Quand on voit toutes les dérives qu'on peut avoir, moi je parlais du cas de mon frère en 2016, l'affaire Adama Traoré n'a pas suscité le même engouement
on va y revenir.
À ce moment-là. Mais bien évidemment, oui, nous, l'État, pour répondre à Madame Ndiaye Sibeth, nous sommes bien évidemment, elle est porte-parole du gouvernement, si elle ne le sait pas, elle est dans un État construit sur des violences policières.
Doria Chouviat, vous découvrez tous ces débats, toutes ces problématiques, toutes ces questions, ou vous y étiez déjà sensibilisée avant la mort de votre mari ?
Alors, j'en étais consciente, mais je ne connaissais pas les noms, les dates exactes, le nombre exact. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'étais pas dans le détail. Mais bien sûr que j'étais consciente, malheureusement, de ce fléau. Et moi, mon mari aussi, il en était conscient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait toute une prévention par rapport à la conduite d'un véhicule de roue avec mes deux fils qui sont équipés d'un véhicule de roue. Bon, déjà, il y a la prévention par rapport à l'accident, etc. Bon, ça, c'est le code de la route, quoi. Et à côté de ça, il y a... Voilà, nous, on n'est pas dans le déni. On sait que ça existe. On sait que personne n'est à l'abri. On sait que les petits jeunes, malheureusement, on se rend compte que c'est un peu... Bon, peut-être que l'intention est bonne, c'est peut-être de la prévention, mais c'est un peu la cible régulièrement des policiers. Puis ils sont souvent en scooter, et puis parfois...
Les jeunes.
Les jeunes, oui, en général.
Mais quand vous dites qu'il y avait une prévention,
ça veut dire quoi ? Une prévention de la part de mon mari.
Ça veut dire qu'entre vous, vous vous disiez quoi ?
Mon mari disait à ses enfants tout le temps, surtout au début, et puis même quand ils sortent, on ne sait jamais si t'as bien ta carte grise sur toi, t'as bien l'assurance sur toi, t'as bien ceci, parce qu'il sait que juste un défaut de papier, parce qu'on l'a oublié, donc c'est le truc, à la base, c'est un truc bénin, vous voyez ce que je veux dire ? Quelconque, ça peut... conduire à une garde à vue, carrément. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous n'avez pas vos papiers d'identité ou quoi que ce soit, il y a des lois qui sont assez strictes et fermes à ce niveau-là. Donc mon mari, il prend ses précautions. Et pour finir, après, il y a le deuxième risque, il y a le risque de l'accident. Et puis il y a donc le risque du contrôle de police. Et le contrôle de police, ça a toujours été le mot d'ordre. Tu fais le canard. Tu fais le canard, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on essaye de te provoquer, il y a de fortes chances pour qu'on te méprise, il y a de fortes chances pour que tu te sentes, qu'on touche ton amour-propre, il y a de fortes chances que tu ne comprennes pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que mon mari a été confronté à tout ça. Depuis l'âge de 14 ans, il est sur un scooter. Donc, quoi qu'il arrive, tu prends ton amende, tu ne discutes pas et tu rentres à la maison.
D'accord.
Ça, c'est le mot d'ordre.
Alors, sur votre mari et sur les circonstances de sa mort et sur les images des circonstances de sa mort, c'est un des éléments qui vraisemblablement ont conduit au virage, ou à ce qu'on appelle le virage actuel, dont on a parlé au début de l'émission, et on va donc y revenir avec les images, Juliette.
Oui, donc le 3 janvier dernier, Cédric Chouvien, un livreur de 42 ans, se fait contrôler au volant de son scooter Quai Branly à Paris. Lors de son interpellation, il fait un arrêt cardiaque hospitalisé d'urgence. Il décède dans la nuit du 4 au 5 janvier. Dès le lundi 6 janvier, TF1 consacre un long sujet à l'affaire.
L'actualité en France, c'est aussi la mort d'un livreur à scooter lors de son interpellation vendredi dernier à Paris. L'homme a fait un malaise cardiaque, il n'a pas pu être réanimé. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Une enquête a été ouverte. Que s'est-il passé exactement ? Le récit d'Henri Dreyfus et Sophie de Vessière.
C'est une interpellation a priori banale qui a abouti à la mort d'un homme. Vendredi vers 10h, des policiers contrôlent un livreur à scooter qui téléphone en conduisant. De sources policières, l'homme se serait montré irrespectueux et agressif. Il les aurait insultés, ce qui a provoqué son interpellation. C'est à ce moment précis que le conducteur aurait fait un malaise. Pris en charge par les policiers et les pompiers, ce livreur, sans antécédent judiciaire et père de 5 enfants, a été conduit à l'hôpital. Il meurt la nuit suivante.
Il y a trop de zones d'ombre, il y a trop de contradictions, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de mépris aussi. Et j'aimerais répondre à mes enfants.
Le décès de cet homme que nous avions interviewé par hasard en novembre 2018 a-t-il été provoqué par des violences policières ? Selon son avocat, cette mort est due à un défaut d'oxygène.
Il y a eu un malaise cardiaque. Selon les médecins qui ont communiqué avec la famille, ce malaise cardiaque n'est pas spontané, ça n'est pas un infarctus. Ce que les médecins ont dit à la famille, c'est que ce malaise cardiaque serait lié à une hypoxie, c'est-à-dire à une privation d'oxygène longue.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le 4 janvier, Ariel Halimi, vous avez fait sur les réseaux sociaux un appel à vidéo pour obtenir plus d'informations sur ce qu'il s'était passé exactement. Les vidéos que vous avez récoltées montrent Cédric Chouvien en train de filmer les policiers, être repoussé par les forces de l'ordre, puis on le voit plaqué au sol par plusieurs policiers, selon la technique du plaquage ventral. L'autopsie qui a depuis été faite constate un décès par asphyxie dû à une fracture du larynx. Une plainte a été déposée pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et les 4 policiers présents lors de l'interpellation n'ont pas été suspendus.
Donc médiatisation très forte dès le début de l'affaire, c'est-à-dire 48 heures après l'affaire, ce qui contraste singulièrement avec les jours et les qui ont suivi la mort d'Adama Traoré, comme on peut le revoir, Juliette.
Oui, donc votre frère Adama Traoré est décédé le 19 juillet 2016, à 24 ans. On a retrouvé la manière dont les JT de TF1 et de France 2 évoquent pour la première fois la mort de votre frère en privilégiant, je cite, les échauffourées qui ont lieu les nuits suivantes.
Des échauffourées ont éclaté la nuit dernière dans le Val-d'Oise à la suite d'une interpellation qui a mal tourné. Un jeune homme de 24 ans est mort. D'après le parquet, il aurait été victime d'un malaise cardiaque après son arrestation à Beaumont-sur-Oise. La police des polices a ouvert une enquête.
En France, une nouvelle nuit de violence dans le Val-d'Oise. 9 personnes ont été interpellées à Persan et Beaumont-sur-Oise. Des heurts ont opposé cette nuit encore jeunes et forces de l'ordre. 35 départs de feu ont été recensés. Des nouvelles violences qui font suite à la mort d'un jeune homme alors qu'il était dans un véhicule de police. Le parquet évoque un décès dû à une infection très grave. Ses camarades, eux, parlent d'une bavure imaginée pour nous. Vincent Piveteau.
Bon, les différences sautent aux yeux. Hein. D'abord, la longueur des sujets consacrés. Dans le cas d'Adama Traoré, il s'agit de deux brèves. La hiérarchie de l'information, on voit que les deux brèves de TF1 et de France 2 commencent par les échauffourées et que la mort d'Adama Traoré passe dans un second plan. La manière dont la version du parquet est privilégiée dans les deux brèves, alors que le premier sujet de TF1 vous donne la parole à l'avocat de Cédric Chouviat. J'ai envie de vous demander comment vous appréciez cette différence de traitement. Est-ce que c'est parce qu'on est aujourd'hui plus familier du thème des violences policières? Est-ce que c'est parce qu'il y a des vidéos de la mort de Cédric Chouviat? Est-ce que ça joue? Est-ce que c'est parce que Cédric Chouviat est blanc?
Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, s'il y a tout cet engouement qu'il y a autour de la mort de Cédric Chouviat, c'est qu'il y a eu le combat Adama avant. Il y a tout un travail qui a été fait de la part du comité, mais il faut savoir que quand mon frère va arriver, on est seul. On est seul. On a tous les médias contre nous. On est tout seul.
Ça veut dire quoi?
Alors contre nous, tout de suite, ma famille sera criminalisée. Tout de suite, mon frère sera criminalisé. Adama ne sera plus une victime, mais le coupable, alors qu'il est mort et les gendarmes seront des victimes.
Criminalisé, ça veut dire que des éléments commencent à sortir sur lui. Il a fait ci, il a fait ça.
Tout de suite, on va dire qu'Adama Traoré est un délinquant. On va dire que la famille d'Adama Traoré sont des délinquants. C'est tout de suite ce qu'on va mettre en avant pour justifier l'acte de ces gendarmes. Et vous avez, dans les premières images, on ne prononce même pas le nom de mon petit frère. C'est juste un jeune homme. Le nom Adama ne les intéresse pas. Il faut savoir que si aujourd'hui on dit Adama Traoré, on a imposé le nom de mon petit frère.
Et vous continuez à l'imposer ici sur ce plateau avec le t-shirt.
Toujours. Et quand nous, on arrive dans ce dossier, on est seul. On est seul face à tous ces médias qui ne vont pas du tout nous aider. La seule force au début dans ce dossier, quand on va arriver, c'est notre avocat. Maître Yacine Bouzrou sera la machine de guerre de cet avocat tout de suite dans les premières semaines, qui va faire qu'aujourd'hui nous en sommes là et on va s'imposer médiatiquement et on va, le comité Adama va faire que les violences policières vont devenir un élément premier. En tout cas, mais tout de suite, j'ai envie de dire que si on avait eu la même force, le même engouement tout de suite, peut-être qu'on aurait eu des vidéos, peut-être qu'on aurait eu des témoignages, peut-être qu'on aurait eu autre chose dans
peut-être
le... –
Peut-être qu'on aurait eu des vidéos, il n'y a pas de vidéo. –
Ah bah comme par
hasard. – Mais vous pensez qu'il y en a et qu'ils ne sont pas encore sortis ?–
J'ai envie de dire que comme par hasard, quand Adama Traoré va mourir dans cette cour de gendarmerie, les caméras ne marchent plus.
Voilà. Parce qu'il meurt dans la cour de la gendarmerie.
Voilà. Les caméras ne fonctionnent plus.
Mais l'interpellation, par contre, il est interpellé sur la voie publique.
Oui, quand il est interpellé, bien évidemment, il y a ces vidéos où on le voit courir. Mmh. C'est ce qui va remettre aussi en cause l'avant-dernière expertise sur le temps où mon frère a couru. Mais si l'engouement qui est porté aujourd'hui autour de l'affaire de Cédric avait été exactement la même sur l'affaire d'Adama Traoré, on ne serait pas à 3 ans et demi de combat pour emmener à cette mise en examen des gendarmes, parce qu'il faut savoir que dans l'expertise qui sort en février 2019, est dit clairement par ces experts imminents qu'Adama Traoré est mort asphyxié suite à l'interpellation des gendarmes, où on dit depuis le début que mon frère est mort de plaquage ventral.
De la même façon que Cédric.
Et 3 personnes. Il faut savoir que ce sont les gendarmes qui vont le dire eux-mêmes le 19 au soir.
3 personnes sont sur lui, hein, c'est ça. C'est
leur propos, il a porté le poids de nos 3 corps. Mmh. Adama a porté plus de 250 kilos. Il faut savoir que c'est au mois de février en 2019, le matin même, ils annoncent partout un non-lieu. Un non-lieu sur l'affaire Adama Traoré. Sauf que notre avocat savait très bien ce qui allait sortir.
Qui annonce un non-lieu?
Alors c'est qui? Je crois que c'est Europe 1 qui va le sortir en premier.
Oui, non, mais il n'y a pas de non-lieu. On est bien
non, mais c'est ce qu'ils annoncent. Ah, parce oui, que, vous savez, sur les délais, tout de suite, ça veut dire que déjà tout est programmé. Même médiatiquement, ils avaient déjà tout ficelé. Tout était. Sauf que nous, on savait très bien qu'on a l'expertise qui allait sortir quelques heures après et qui confirme l'asphyxie tout de suite. Mais il faut savoir que ça arrive 3 ans après.
Alors on va revenir sur tous ces éléments. Vous pensez aussi que l'affaire Adama Traoré a ouvert la voie et que maintenant, notamment les médias sont plus sensibilisés à la question des violences policières ?
Alors je pense d'abord qu'il y a une vraie différence notable entre effectivement l'affaire Adama Traoré et l'affaire de Cédric Chouviat, c'est que Adama est noir.
C'est la première pour vous ?
C'est la première. C'est vraiment la première différence. C'est tout simplement qu'il y a un vrai biais cognitif, tant pour les journalistes que pour le tout un chacun. Et on considère qu'une personne qui est noire ou qui vit en banlieue est finalement un peu coupable de ce qui lui arrive. C'est vraiment une histoire sociologique qui fait que le regard qui est porté sur le noir ou, pour l'homme, ou sur l'homme de banlieue ou sur les marges fait que, eh bien, on a une culpabilité inhérente à sa condition ou à sa couleur.
On sait qui on, c'est
les journalistes, le tout un chacun, tout le monde fait partie de cette histoire sociologique et a été déterminé depuis sa plus jeune enfance là-dessus, historiquement. Ça, c'est la première.
Enfin, tout le monde, tous les Blancs.
Tous les Blancs, et pas que les Blancs, vous savez, hein, ceux qui font aussi partie d'un système éducatif et sociologique, on peut être aussi noir et en faire partie, et avoir cette vision.
Et avoir un
intérêt. Bien sûr, totalement. Maintenant, il n'y a pas que ça. Bien sûr que le combat du comité Adama Traoré a contribué. Il y a eu aussi avant Rémi Fraisse. On a acquis.
Donc, militant écologiste qui est mort sur le barrage de Sivens.
Oui. Et je connais l'affaire puisque je traite encore cette affaire 5 ans après et on va aboutir malheureusement. On a eu un non-lieu. Et on a acquis l'expérience de la difficulté du traitement judiciaire des violences policières de manière générale, avec encore plus de difficultés pour certaines affaires comme celle de Adama. Mais on a également la difficulté médiatique, bien évidemment. La difficulté médiatique, elle s'est simplifiée aujourd'hui parce qu'on a acquis une expérience de travail en collaboration avec les médias. On sait que les médias, initialement, travaillent avec la préfecture de police. Ils sont nourris par les syndicats de police parce que ce sont ceux qui les nourrissent de faits divers. Donc, ils les favorisent dans le traitement médiatique et dans la communication.
C'est-à-dire que structurellement, quoi qu'il arrive, où que ça se passe, les premières informations qui parviennent aux médias sont des informations d'origine policière.
Bien sûr, ce sont les premières sources des chaînes d'information continue et de certains quotidiens.
Cela dit, dans l'affaire Cédric Chouviat, ce n'est pas le cas.
Si, c'est le cas.
C'est quand même le cas.
C'est exactement le cas. Le jour du décès, enfin, en tout cas de l'accident, parce que le décès a été reconnu plus tard, dès le 3 janvier, il y a un article dans Le Parisien. Et l'article relate très exactement la version de la préfecture de police qui est mensongère, puisque la préfecture de police indique qu'il est mort des suites d'un malaise cardiaque au cours d'un contrôle, et il relate effectivement l'agressivité en culpabilisant la victime. Il se trouve que j'ai été appelé très rapidement, donc on bénéficie de l'expérience du comité Adama, des confrères, de mon expérience sur l'affaire de Rémi Fraisse et des dossiers de violences policières, on sait qu'on doit agir dans les 48 heures. C'est un peu comme un kidnapping finalement, les violences policières. Si vous n'agissez pas dans les 48 heures, c'est fini. Vous êtes fini en termes d'opinion publique et en termes de traitement judiciaire, parce que le traitement judiciaire va avec l'opinion publique. Et donc vous avez l'obligation de récupérer des preuves et d'aller contre finalement l'institution judiciaire, c'est-à-dire l'IGPN qui est saisie et qui va essayer de faire disparaître l'affaire. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Et aujourd'hui, ils ne sont pas dans une attitude de conciliation ou en tout cas un peu plus favorable ou de précaution avec les policiers. Ils sont là pour faire disparaître les affaires de violence policière. Et je peux le dire et l'affirmer parce que j'ai une cinquantaine d'affaires et que je vois les techniques et les mécaniques qu'ils utilisent dans le cadre des affaires. Je pourrais vous en faire des heures et des heures.
Bah, j'aimerais bien pouvoir vous contredire sur ce point, mais malheureusement, je n'ai pas les éléments pour le faire.
Donc, je vous donne un exemple concret. Hein, violence policière pendant les Gilets jaunes. Vous avez des classements sans suite pour des vidéos avec des personnes qui se font taper et qui tombent au sol. Et classements sans suite... vous regardez ces dossiers, vous allez dans les dossiers et vous voyez que même la victime n'a jamais été entendue par l'IGPN. C'est-à-dire que vous avez des classements sans suite, sans audition des victimes. Donc, j'affirme aujourd'hui, et on ne pourra jamais, à mon avis, pas me contredire, qu'il y a une vraie problématique au niveau de ce traitement judiciaire.
On a des éléments chiffrés.
On a quelques éléments chiffrés des procédures en cours qui datent alors de novembre 2019, qui sont des chiffres de l'AFP qui ont été un petit peu repris à l'époque. Donc pour l'année 2019, on compte 372 procédures ouvertes, donc 212 confiées à l'IGPN. Et 109 de ces procédures ont été classées sans suite. 29 ont donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Et assez récemment, on a eu une première condamnation de policier. Alors en décembre, il a été reconnu coupable de violence volontaire pour avoir lancé un pavé sur les manifestants lors du 1er mai. Et il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis.
Là, on parle bien de gens qui ont été victimes de violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes. Hein. C'est bien de ça qu'on parle.
Là, oui, c'est en tout cas les procédures ouvertes en 2019.
Ils ont choisi un dossier sans victime, puisqu'il n'y a pas de manifestants.
Le jet de pavé, oui.
Oui, c'est assez symptomatique.
Ils ont choisi.
Le parquet. Le parquet a choisi d'orienter cette procédure vers un traitement judiciaire afin finalement de lancer à l'opinion publique une sorte de victime sacrificielle. Hein. Vraiment, hein, c'est une victime expiatoire pour toutes les autres violences policières données et qui cache une forêt colossale.
Dorian Chouvien, alors on a vu d'emblée, dans les 48 premières heures, comme le dit Ariel Halimi, bataille médiatique intense, importante, et qui ensuite a continué les jours suivants, puisque toute la famille de Cédric Chouvien, son père, vous-même, son épouse et ses enfants, se sont beaucoup, vous êtes beaucoup prodigués sur les plateaux de télévision, vous y êtes beaucoup allés. Et encore hier soir, là, la veille du jour où nous enregistrons cette émission, vous étiez sur le plateau de Cyril Hanouna pour des témoignages très émouvants, en tout cas qui ont beaucoup ému Cyril Hanouna et tous les chroniqueurs de l'émission, comme on le voit là. Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter l'invitation de ce qui est quand même une émission de divertissement?
C'est la chance qui s'est offerte à moi, contrairement à ça, c'est bien ça, hein?
Oui, oui.
Ah ça, d'accord, je ne veux pas écorcher ton nom. C'est-à-dire que quand je regarde de loin, je crois que la plus grande frustration dans la vie, c'est de ne pas pouvoir s'exprimer. Ça, je crois que ça doit être le pire pour une personne. Et nous, la chance qu'on a eue, c'est que très vite, on a été encadré par Maître Halimi, qui nous a expliqué que là, c'était un combat, qu'il fallait se faire confiance, qu'il fallait être solidaire et qu'il fallait être discipliné et qu'il ne fallait pas se perdre. Et il m'a dit, moi, de mes erreurs, en fait, il m'a expliqué qu'il prenait sa force de ses erreurs. Donc, en fait, en face de moi, j'avais un avocat qui est tombé, qui s'est relevé, mais qui se remet en question, qui remet en cause, qui met les choses à plat, qui analyse le système. En fin de compte, il a des antennes partout, cet homme.
Ouais. Mais c'est pas lui qui vous a décidé à aller chez Hanouna, quand même, puisqu'il nous disait avant le plateau qu'il n'était pas forcément très favorable à lui-même.
Il n'était pas très favorable par rapport au moment où c'est arrivé, parce qu'il y avait un enjeu, j'ai envie de vous dire, parce que tous les jours, on a des enjeux, on a des petites déceptions, des petits encouragements. Mais à ce moment-là, il m'avait dit non, tu iras au moment voulu, et puis il ne faut pas trop. Et moi, j'ai dit, d'accord, s'il ne faut pas trop, c'est vrai que là, ça commence à faire trop. Donc, OK. Et on a mis ça de côté, et après, par la suite, beaucoup de personnes qui m'ont dit, déjà, il faut distinguer, il fait deux émissions. Et après, quand j'ai vu autour de moi toute cette humanité, toute cette gentillesse, cette bienveillance, cette pudeur aussi, parfois, vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui me disent, je ne sais pas quoi te dire, mais je leur dis, mais ne dites rien, je vois tout dans vos yeux. Donc quand j'ai vu tout ça, je me suis dit qu'en fait, c'est un phénomène qui est en train de se généraliser et que je ne faisais pas une bêtise en y allant. Sans compter qu'on m'a expliqué que je venais juste comme pour l'audition à l'IGPN. J'étais auditionnée en quelque sorte, donc j'y suis allée. Et bien sûr, j'avais une petite intention derrière moi, c'était par rapport à cette pétition que j'observe beaucoup en ce moment. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu misé dessus aussi. J'ai misé sur mes avocats, mais aussi sur cette pétition. J'ai placé aussi ma confiance en Dieu et en moi. Mais cette pétition, je la regardais et je me suis dit, mais si je vais sur un plateau comme celui de Cyril Hanouna, de ce qu'on m'a expliqué, elle va doubler. C'est vrai, elle a doublé en quelques heures.
Vous avez fait un choix différent. Je crois que vous n'êtes jamais allé chez Cyril Hanouna. J'imagine qu'on vous a beaucoup sollicité.
Énormément. C'est vrai que la différence avec Doria, c'est que, bien évidemment, dans les premiers mois, les deux premiers mois, on a dû s'imposer médiatiquement. Après, toutes les émissions sont arrivées, hein, sauf qu'avec avec notre avocat, Maître Yacine Bouzrou, on fait le choix de ne pas aller dans toutes les émissions et on attend. Certains moments, sur certaines émissions, on était déjà venu chez vous ici pour un cas très précis, mais voilà, on fait le choix de ne pas faire toutes les émissions télé.
Et pourquoi pas Hanouna ?
Le moment n'est pas encore présenté.
Ce sera quoi le moment ?
Le jour,
quel sera le bon moment pour aller chez Hanouna?
J'avais dit une fois, je pense à son assistant, le jour où ils feront une spéciale Adama Traoré dans leur émission, parce que le cas et le sujet de mon frère est très important. Et voilà, et la différence aussi, c'est que voilà, Cédric est blanc, Adama Traoré est noir. Donc quand on va sur un plateau de télévision, je pense qu'il faut faire très attention. Je pense que ça ne sera pas pris de la même façon. Donc on fait le choix de choisir les émissions de télé. On en a fait énormément, mais on le fait vraiment au moment, à un moment très opportun du dossier, ou quand il y a certains éléments, mais on a déjà refusé plusieurs émissions.
Cédric est blanc, Adama Traoré est noir, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous serez accueilli avec moins de bienveillance dans une émission comme celle de Hanouna?
J'en suis persuadé. Non plus. Vous savez, quand Théo a été chez Hanouna, ils n'ont pas été très bienveillants à son égard. Mais après, c'est un choix. Nous, c'est vraiment un choix de la part de avec notre avocat. Et peut-être qu'on ira un jour chez Hanouna. Mais pour le moment, c'est pas, l'occasion et la situation ne s'est pas encore présentée encore pour nous. Et vraiment, les choix de télévision, on les fait vraiment quand on est sur 3 ans maintenant. Aujourd'hui, au début, médiatiquement, tous les médias étaient contre nous. Aujourd'hui, avec le comité Adama, on peut dire qu'on peut choisir nos émissions de télé et en refuser certaines même.
Alors, je disais beaucoup de médias, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été favorables à votre mari dans cette affaire-là.
Hein. Ah, si, tous. Même ceux qui ont voulu être défavorables, en fin de compte, sans le vouloir, ceux qui ont évoqué ces procès-verbaux. Ouais. Enfin, je veux dire, on a tous des PV.
Alors là, attendez, on va nommer les choses.
Mais peut-être.
Hein. On va nommer les choses.
Enfin,
on va nommer les médias, on va nommer les journalistes. Alors, d'accord. Vous faites allusion à un papier très précis, Juliette.
Oui, c'est le papier. Alors, du Point, écrit par Aziz Zemmoury, qui a été publié le 10 janvier dernier, qui est titré « Le livreur Cédric Chouviat roulait sans permis depuis plus d'un an ». Donc c'est là l'affirmation principale du papier. Aziz Zemmoury ajoute que Cédric Chouviat devait près de 40 000 euros d'amende au Trésor public en PV non payé. Voilà, c'est là l'accusation.
Roulait sans permis, annulation de permis et 40 000 euros d'amende. Alors, plein de questions sur ce papier. La première question, quand même, elle est factuelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Alors, en fait, peu importe que ce soit vrai ou faux, puisqu'il roule en 50 cm cubes et donc il n'a pas besoin de permis de conduire pour rouler avec un scooter de 50 cm cubes.
Et c'est ce que vous avez répondu tout de suite, d'ailleurs.
Bien évidemment, mais on voit que c'est une forme d'escroquerie d'information, hein, parce que c'est essayer de faire passer quelqu'un pour délinquant de la route, alors que ce n'est pas le cas.
D'accord. Et les 40 000 euros de PV?
Ah, ça, c'est à moi de répondre.
Alors, allez-y.
Moi, je reprends du début. Alors, moi, ça m'a fait rire. Hein. Il n'y a pas que ça qui m'a fait. Il y en a un deuxième aussi qui m'a fait rire. Mais celui-là, j'ai dit, mais c'est trop magique, c'est trop marrant. Parce qu'en fin de compte, ils utilisent donc là l'encre pour faire passer Cédric pour un hors-la-loi de la route, etc. Et en fin de compte, sans le vouloir, ils expliquent aux gens, parce que Cédric est propriétaire d'un BMW C1 et d'un scooter MP3. On va dire que c'est plutôt bien aussi, et très confortable. Voilà. Le BMC1, il bénéficie d'une ceinture de sécurité. Du coup, vous n'avez pas besoin de mettre de casque. Et en plus de ça, vous avez un toit. D'accord ? Mais pour le conduire, il faut avoir son permis. Et vous avez le MP3, désolé de faire la promotion du scooter, mais qui a 3 roues, donc une meilleure stabilisation. Vous appuyez sur le stabilisateur, vous n'avez pas besoin de mettre vos pieds par terre, etc. Donc à choisir entre rouler en 50 cm3 et rouler avec l'un de ces deux véhicules qui vous appartient, si vous aviez vraiment le choix... Sans hésitation, vous montez sur le C1. Sauf que mon mari, effectivement, a une annulation de permis. Donc, la loi lui interdisant de conduire un plus de 50 cm3, eh ben, il roule en 50 cm3. Et pendant la canicule qu'il y a eu cet été, il avait son casque qui dégoulinait de sueur tous les jours. Et il était sur son scooter du matin jusqu'au soir.
Sur le 50 cm3.
Sur le 50 cm3, parce que la loi lui interdit de conduire un 125 tant qu'il n'a pas repassé son permis. Et pourquoi il a une annulation? Parce que comme il est très exposé, mais ça ne se justifie pas, au contraire, j'invite tout le monde à être respectueux du code de la route, la probabilité pour qu'il commette des infractions et qu'il se fasse contrôler, etc., elle est bien entendu multipliée. Et du coup,
parce qu'il roule beaucoup.
Voilà,
c'est
roule mathématique. Hein. Il fait plus de 200 km par jour sur Paris et sa couronne en 50 cm3. Donc, en fin de compte, c'était censé être là pour le déshonorer, le rabaisser, le discréditer, le culpabiliser, enfin le ouais, ouais voilà tout ça. Et en fin de compte, eh ben nous on n'allait pas en parler de ça. Mais du coup on a dû être amené à s'exprimer. Donc même les gens de la famille, les amis et tout. J'ai dit, mais bah oui, c'est pour ça qu'ils roulaient en 50.
Et alors, j'insiste, et les 40 000 euros
les PV. Alors, vous savez, les PV, c'est vrai, ça paraît gros, 40 000 euros. Donc, on se dit, comment il va faire pour les payer? Mais bon, après tout, c'est bien fait pour lui, c'est de sa faute, il avait qu'à pas s'en prendre. Mais vous savez, les PV, ça va trop vite. Ici, mettre 375 PV, je vous explique. Un PV de 90 euros, ouais. Si vous prenez une voie de bus, vous prenez 90 euros. La plupart des deux roues, à tort, à raison, utilisent la voie de bus. Cédric, comme... Je vous le dis, moi, à ma connaissance, il apprenait la voie de bus en deux roues. Donc, 100 PV de 90 euros, un PV de 90 euros, il est majoré à 375 euros. Donc, 100 fois 375 euros, ça fait 37 500. Donc, pour quelqu'un qui est coursier depuis l'âge de 14 ans et qui a 42 ans aujourd'hui, il aurait pu en avoir plus. Mais le pire dans tout ça...
Attention, elle va vous piquer votre boulot, hein, parce qu'elle est très bonne. Hein.
Non, c'est ça. Non, mais le pire dans tout ça, c'est que Cédric, il n'est pas très procédurier, puis il est du genre à rendre service. Et il a son côté un peu d'autres priorités dans la vie. Donc nous, on est propriétaire d'un Touran Volkswagen. La majorité de des PV, c'est les miens, en fait. C'est ceux de stationnement.
Ah. Et éventuellement... Le Touran qui est un 4 roues. Hein.
Qui a 4 roues. Cédric ne le conduit pas, il le déteste, il le haït. Et donc, il ne le conduit pas. Donc, il y a des PV, c'est ça. Sans compter que moi, le Touran, il m'arrive de le prêter régulièrement si quelqu'un en a besoin. Ça m'étonne pas que ce chiffre soit sorti.
L'annonce, ce placement de produit.
je pense qu'on a tous les détails. Non, ce qui est frappant, c'est que vous racontez comment, effectivement, les fuites policières ont tenté, dès le début et tout au long des 3 ans, de multiplier les fuites défavorables sur Adama, sur la famille, sur tout le monde. Là, on voit que... C'est la même chose, puisque l'auteur de cet article du Point, Aziz Zemmoury, est quelqu'un qui a d'excellentes sources policières, pas toujours très fiables, il faut le dire, mais en tout cas, il a des sources policières. Sur cette constante, quand même, qu'on observe affaire après affaire, quand surgit une affaire, immédiatement surgissent, comme par miracle, les fuites défavorables sur les victimes de violences policières.
Ça confirme le système, finalement. Ça confirme le caractère systémique d'abord des violences, mais également du traitement et judiciaire, et administratif et communicationnel des violences policières. C'est comme s'il y avait une mécanique qui se mettait en branle à chaque fois qu'il y avait une bavure ou une violence policière qui se déroulait. Et effectivement, je vous prends par exemple le dossier de Rémi Fraisse que j'ai connu en 2014. On avait déjà à l'époque un communiqué de presse qui avait été envoyé par le ministère de l'Intérieur, donc c'était Cazeneuve à l'époque, qui disait on a retrouvé un corps sur la zone de Sivens, histoire de dire que ça pouvait être un de ces zadistes un petit peu toxicaux, qui aurait pu mourir d'une overdose. Il y a toujours ces connotations en matière de communication qui veulent faire croire au public qu'il y a une mort indépendante de toute intervention des autorités administratives. Voilà, et après...
Ça minore, mais ce n'est pas forcément défavorable.
Oui, mais après, on dit qu'on n'a pas retrouvé son sac et que peut-être dans son sac, il y a un cocktail Molotov.
Il y a eu ça ?
Ah oui, bien sûr, il y a eu ces communications. Il y a eu les communications de l'armée là-dessus.
Vous avez réussi à tracer ces fuites ?
Alors, tracer les fuites, c'est toujours compliqué. On sait que ce sont toujours des fuites avec à peu près les mêmes journalistes qui sont les relais, ce qu'on appelle les journalistes de préfecture. Ça existe vraiment, hein. Depuis Balzac ça existe, hein, puisqu'on voit dans Splendeur et misère des courtisanes le même type de journaliste qui relaie la parole de l'État et qui en font leur métier et qui sont abreuvés aussi d'une parole de l'État. Et donc ils aident l'administration à fournir des fausses informations au public, histoire de criminaliser et de culpabiliser la victime pour permettre aux autorités et aux policiers impliqués de se déresponsabiliser et d'apaiser finalement le scandale et de faire disparaître le scandale auprès de l'opinion publique.
– Alors vous parlez de préfecture, et dans le cas de Paris aujourd'hui c'est particulièrement d'actualité puisque il y a un préfet de police, on va dire qui a un profil un tout petit peu particulier depuis quelques mois à Paris, qui s'appelle Didier Lallemand. Dont on considère qu'il est à l'origine, ou en tout cas qu'il applique une doctrine de maintien de l'ordre beaucoup plus répressive que celle qui était appliquée précédemment. On se demandait au début de cette émission ce qui faisait système finalement. Mais dans ce qui fait système, il y a cette fameuse doctrine qui consiste à inciter les unités de police à aller au contact, comme on dit. C'est le vocabulaire, vous parlez.
À impacter, aller
au contact. Alors, est-ce que le discours qu'on a pu entendre dans la bouche des ministres au début de l'émission se traduit dans les consignes données par la préfecture de police, on a quelques...
Pas, puisqu'on a un article du Parisien qui explique ce 15 janvier qu'au-delà des déclarations donc politiques, aucune inflexion de doctrine n'est prévue. À la préfecture de police, on considère d'ailleurs que la stratégie donc de contact avec les manifestants est certes, je cite, plus spectaculaire, mais aussi plus efficace. Et de son côté, le préfet de Paris, donc Didier Lallement, celui dont on vient de parler, s'est déplacé au commissariat du 7e arrondissement pour assurer de son soutien personnel, je cite l'avocat des policiers Thibon de Montbrial, donc pour assurer de son soutien policier les quatre policiers qui sont impliqués dans la mort de Cédric Chouvien.
Alors ça s'est passé hier, le préfet de police est allé au commissariat du 7e, comme vient de le dire Juliette, pour assurer de son soutien les policiers très, très choqués par la mort de votre mari.
D'accord, donc c'est le préfet qui s'est déplacé au commissariat pour soutenir les policiers et mon mari ou que les policiers,
Parce qu'ils ont été choqués par la mort de votre mari.
Ah, ils ont été choqués, donc aujourd'hui ils se rendent compte que demain... par rapport à leur comportement, leur doctrine, les moyens, les consignes qu'ils reçoivent, si ça se trouve, ils vont être auteurs de la même chose. Donc, d'accord. C'est une espèce de prévention. Je n'ai pas compris pourquoi il a été les voir, les soutenir.
Pour les soutenir.
Nous, dans notre...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pour les soutenir. Mais dans quoi ?
J'imagine, pour me mettre à la place du préfet de police, dans l'épreuve psychologique que représente pour eux... le fait d'être coupable de la mort de votre mari.
Ah, donc il culpabilise tellement.
C'est pas vraiment...
J'essaie de comprendre.
En réalité, si vous finissez la phrase du tweet, suite à sa rébellion. En réalité, il considère que le drame, donc la mort de Cédric, est de sa faute, puisqu'il a, il se serait rebellé, selon l'avocat qui visiblement est bien informé, mais qui n'a pas encore eu accès au dossier, donc on verra. Et du fait de cette rébellion, eh bien, il y a eu une mort. Et en plus, cette mort a causé beaucoup de chagrin aux policiers. C'est la raison pour laquelle le préfet vient les soutenir. Donc il y a une double criminalisation, une double culpabilisation. Et je pense qu'il y a une indignité que je me passerai de commenter dans ce tweet et dans l'attitude du préfet.
Bah, moi, j'ai envie de dire, la famille Chouvia a été reçue par M. Castanière, qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui. À l'époque, quand mon frère se fait tuer, le ministre de l'Intérieur va se déplacer à Beaumont pour apporter son soutien aux gendarmes.
Ah oui.
Ouais. Mmh. À la caserne, mise en cause dans la mort d'Adama Traoré. pourtant, il vient.
Tout ça
j'apprends plein de choses parce que je survole. Je survole tout. Un film, une série.
Il est venu dans notre quartier, en bas de nos immeubles où on habite, où il vient apporter son soutien à la maire de notre ville et aux gendarmes. Il faut savoir que nous, les gendarmes de chez nous, ont été médaillés pour leur bravoure et leur courage.
Ah d'accord.
Voilà, deux fois.
Ah, j'atterris là, je suis
désolée.
Donc
effectivement, ça, comment je vois ça, je me dis bon, effectivement, c'est indécent. Effectivement, nous sommes dans un système qui est autoritaire et assez répressif, où ils vont imposer la violence policière. Mais dites-vous bien que nous, ils sont venus dans notre case neuve. Le ministre de l'Intérieur de l'époque va venir dans notre quartier apporter son soutien aux gendarmes. Et les gendarmes et les policiers municipaux de Beaumont-sur-Oise vont être compensés de leur bravoure avec un article dans le Parisien.
Alors, c'est intéressant, on touche là des questions véritablement intéressantes, parce que depuis le début de l'affaire, votre ton à vous, votre ton personnel, est plutôt conciliant à l'égard du gouvernement. Je voudrais qu'on vous écoute encore hier soir sur le plateau de Cyril Hanouna.
D'accord, je vais me regarder.
Quand vous arrivez dans le bureau de Christophe Castaner, il vous dit quoi ?
Il m'explique que d'une certaine manière, il a une part de responsabilité.
D'accord.
Il s'excuse, il compatit. Il présente ses condoléances. Mais après, par rapport à nos demandes, c'est-à-dire que les policiers soient suspendus...
C'est la pratique du plaquage.
De mettre un terme...
Vous y avez été avec qui, monsieur le
président ? Accompagné de...
Votre fille, d'accord.
De mes deux aînés.
Mon grand frère.
De ma belle-mère.
D'accord.
Mon beau-père.
Ma tante.
Et ma belle-sœur. La sœur de mon mari.
D'accord. Donc il vous dit que par rapport aux sanctions, pour l'instant, il ne peut rien faire.
Oui, il peut rien faire du tout. On voit que c'est un homme qui a les mains liées. Il est entre deux feux, vous voyez ce que je veux dire ? Entre...
Oui, mais
vous voyez ce que je veux dire ?
Comprendre dans quel système il
est. Voilà.
Alors, c'est vrai que ça peut paraître surprenant de vous entendre dire que Christophe Castaner a les mains liées. Il est quand même ministre. Vous pensez qu'il a les mains liées ?
Non, il a les mains liées. C'est que parfois, on éteint un feu, mais on en allume un autre. Vous voyez ce que je veux dire, non. ou pas?
C'est-à-dire, enfin, il craint d'allumer un autre feu, c'est ça que vous voulez dire?
En fait, il a peur que ça soit mal interprété par la police. Il a peur que la police n'ait pas encore pris conscience, alors que lui, il a pris conscience que les violences policières se sont banalisées. Et il m'explique qu'avant le décès de Cédric, il y a des réunions. Après, moi, je pars sur le fait qu'il est sincère et qu'il me dit la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des débats, hein, c'est... Maître Halimi, vous confirmez? Non.
À peu près, effectivement. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il a deux exigences, c'est-à-dire la réalité des violences policières qui sont de plus en plus reconnues et par les médias et par l'opinion publique. Et il y a aussi la pression des syndicats de police et de la police qui est extrêmement importante. Il y a aussi une dissension entre la maison préfecture de police et le ministère de l'Intérieur. Maintenant, je ne lui accorderai pas l'humanité absolue qu'on pourrait penser...
Mais moi, je ne cherche pas à enjoliver l'événement ou quoi que ce soit. Je vous dis, moi, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, d'accord? Donc moi, j'ai entendu un homme qui s'est excusé, qui avait dit qu'il a reconnu qu'il avait, que le gouvernement avait une part de responsabilité dans ce drame.
– Mais en même temps, sur la question par exemple du plaquage ventral, qui est la technique d'immobilisation qui est à l'origine de la mort de votre mari, qui a refusé de prendre tout engagement de donner consigne par exemple de supprimer cette technique du plaquage ventral.
Mais...
C'est-à-dire…
Je comprends, mais il nous a fait comprendre, en tous les cas, clairement, qu'il serait prêt. Mais comme si...
Prêt à quoi ?
On a l'impression qu'il attend un soutien, qu'il attend peut-être... Je ne sais pas, il attend un maximum d'arguments, parce que face à lui, il y a des gens qui s'y opposent.
Les policiers.
Les policiers.
Les syndicats de police.
Les syndicats de police.
Et vous comprenez ça?
Je ne comprends pas qu'ils s'y opposent.
Mais vous comprenez que le ministre de l'Intérieur ait peur de l'opposition des syndicats de police.
C'est pas que je le comprends, c'est pas que je le tolère, c'est pas que j'y adhère. C'est juste que je constate. Moi, je vous dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Je constate qu'il y a une vraie problématique derrière. Que c'est je lui ai dit, c'est au-delà. Mais bien sûr, ça, dans l'urgence, il faut mettre un terme à ces deux pratiques, parce que ça y est, les faits sont avérés, elle est dangereuse, elle est meurtrière. Mais au-delà de ça, il y a aussi un état d'esprit derrière.
Assa Traoré, j'ai envie de dire, du haut de vos 3 ans et demi d'expérience, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Doria Chouviat, qui est à côté de vous, et qui dit « Christophe Castaner a les mains liées ».
Moi, ce que j'ai envie de dire à Doria, c'est que...
Je suis naïve, peut-être.
Hein,
elle qui va le dire.
Ouais,
si elle le pense.
Je me, avec tout le soutien et le respect que j'ai pour elle, suite au décès de son mari il y a même pas un mois, moi, je me désolidarise de ce discours que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas entendre et que je ne peux pas consolider de la part de monsieur le ministre de l'Intérieur. Et j'ai envie de dire à monsieur Castaner que s'il nous avait écoutés depuis 3 ans... et qu'il avait interdit ces techniques d'immobilisation qu'on dénonce depuis très longtemps, Cédric n'aurait pas subi ce plaquage ventral il y a quelques jours, et on ne serait pas sur ce plateau en train de débattre sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Castaner est dans une impasse qu'il a lui-même créée parce qu'il a le pouvoir. C'est un homme qui a du pouvoir, c'est un homme qui peut décider. Aujourd'hui, effectivement, il y a toutes ces violences policières qui arrivent, mais quand il vient avec des mots attendrissants et de dire qu'il comprend, je trouve son discours pas vrai, je trouve son discours très hypocrite, je trouve son discours qui n'est pas du tout sincère. Si son discours avait été sincère, il aurait déjà interdit ces techniques d'immobilisation, il les aurait interdites juste après avoir reçu la famille, il aurait surtout suspendu les policiers, et ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à garder un ton ferme, il faut continuer à garder un ton assez très directif et continuer à demander à ce que ces policiers qui ont tué Cédric soient suspendus et que la technique d'immobilisation soit interdite. Et j'ai envie de dire qu'il y a eu des morts aussi avant. Ce monsieur qui est ministre de l'Intérieur, ne les a pas reçus. On a eu, nous, on a des personnes proches du comité comme Ibo Ibrahima, qui est mort de la même façon avec un scooter. Donc c'est marrant, hein, parce que lui, c'est dans un quartier populaire où ça se passe. Il est percuté, il meurt. Et comme par hasard, on n'a pas accès, la famille n'a pas accès aux vidéos. Et tout de suite, c'est très compliqué. Il n'a pas eu de mots, ne serait-ce qu'un mot pour cette famille. On a Gaël Camara qui va mourir à Épinay aussi dans un quartier, une balle dans la tête. Aujourd'hui, la famille n'a pas eu accès aux vidéos. Et quand on entend ce monsieur Castagnard, j'ai envie de lui dire, bon, s'il est vraiment sincère dans ce qu'il dit, bah, c'est de tout de suite suspendre les policiers qui ont tué Cédric, et c'est de tout de suite donner la visibilité aux vidéos à ces familles qui les demandent, et qu'il interdit ces techniques d'immobilisation. Et je demande à Doria d'avoir un discours assez ferme envers M. Castagnard, qui, lui, a le droit, il a le pouvoir. Et c'est surtout de dire, M. Castagnard ne peut pas demander de soutien, il n'est pas la victime. Nous, toi, et les autres familles, nous sommes les familles de victimes. Il ne faut surtout pas l'oublier que dans l'opinion publique, nous sommes les familles de victimes et eux sont garants de nos droits. Eux sont responsables de nos droits. Lui, il est Premier ministre. Si toi, ministre de l'Intérieur, si toi, tu avais été ministre de l'Intérieur ou moi, on aurait pris des décisions autrement. Aujourd'hui, il a ce pouvoir-là.
La conclusion, malheureusement, je sais que vous allez me prendre pour une folle, mais dans son discours, elle me rassure. Ça veut dire qu'il va le faire. Il va le faire.
Ça, Traoré vous rassure ?
Oui, parce qu'il a le pouvoir. Et moi, il m'a mis un peu dans le doute. Donc, s'il a vraiment le pouvoir, il va le faire.
Il avait le pouvoir de l'interdire sur
mais
le champ.
Mais il va le faire parce qu'il s'est excusé, il s'est senti responsable. Il a fait des promesses, même en public, dans son discours. Il a dit, s'il s'avère que si les faits sont avérés, que cette pratique a causé la mort d'un citoyen, eh ben, je prendrai les mesures nécessaire. Ça veut dire quoi, prendre les mesures nécessaires? Ben, ça veut dire
Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'un avocat dit à sa cliente? Qu'est-ce que...
De garder son optimisme. Parce que c'est le plus important, surtout dans ces moments-là.
Ça, c'est un avocat diplomate, ça.
J'essaie de l'être, de plus en plus. Mais surtout de conserver la même ligne. C'est-à-dire la demande de la suppression, c'est la première chose qui a été demandée, hein, devant M. Castagnard. Demander la suppression du plaquage ventral, mais également de la clé d'étranglement. Effectivement, il y a eu plus de 10 à 15 morts dans le passé. Les deux, puisque c'est probablement la clé d'étranglement qui a pu fracturer le larynx. On verra. Et également demander la suspension des fonctionnaires de police. Donc, on peut tenir un discours et on peut avoir une forme d'optimisme. Je n'ai pas, moi, le même optimisme que ma cliente. Je n'ai pas le même optimisme parce que je ne sais pas s'il est sincère ou pas, et à la rigueur, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, en droit, et moi je réfléchis en droit, en matière de soit de maintien de l'ordre, soit d'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative, c'est l'autorité politique, l'autorité civile qui commande la police. Et le problème que nous avons en France,
c'est elle qu'il faut le dire.
Il y a une forme, oui, bien sûr, mais il y a une forme de compréhension naturelle chez Doria. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ce même rapport théorique. On a la police qui est en train de prendre le pas sur l'autorité politique. Et le problème, qu'il soit sincère ou pas, c'est qu'on a des syndicats de police qui sont en train de faire du chantage à l'intérieur. Et même s'ils avaient l'envie de changer de ligne, comme on peut éventuellement le ressentir aujourd'hui, je pense que ça va être très compliqué et je ne vois pas comment ils vont faire pour interdire le plaquage ventral ou suspendre des fonctionnaires sans perdre la base des policiers. Et tout ça... C'est ça qui est un enjeu de société et un enjeu politique, parce que s'ils perdent la base des policiers, ils n'ont plus d'armes, et malheureusement, c'est la seule arme dont ils disposent aujourd'hui, parce qu'ils se sont servis des policiers à outrance dans le maintien de l'ordre, et donc ils perdent le pouvoir.
– Votre avocat est quand même moins optimiste que vous. Hein.
– Oui, mais moi, je pense que c'est faisable. S'il accepte re-recevoir le ministre et qu'il me dit sincèrement, voilà, j'ai cette problématique, j'ai ce dilemme, moi, j'ai une solution, je peux lui en faire part.
– Moi, j'ai envie de dire que si M. Castagnard était si sincère que ça, il n'a même pas besoin d'attendre de recevoir Doria, c'est de suspendre les gendarmes dans l'affaire d'Adama Traoré. Tout simplement.
Celle-ci, malheureusement, il y en a eu d'autres.
Si on part vraiment dans ton... Moi, j'aimerais avoir ce... Mais je me dis, 3 ans après, on se bat tellement que s'il est vraiment sincère, aujourd'hui, tous les éléments sont là.
Mais justement...
Ça veut dire qu'au moment où on sort sur ce plateau, M. Castagnard met en examen et condamne les gendarmes dans l'affaire d'Adama Traoré. Mais comme il n'est pas sincère,
il ne le fera pas.
Et j'ai envie de lui dire de aussi donner les vidéos dans l'affaire de Ibrahima Traoré. S'il est vraiment sincère, il peut le donner. Et j'ai envie de lui dire aussi d'enlever le non-lieu dans l'affaire de Guy Camara, tué dans une balle de la tête. S'il est sincère. Non, mais...
Il n'est pas ministre de la Justice, il n'est pas magistrat.
Oui, mais
il
ça veut dire que si,
il n'a pas de pouvoir sur les décisions judiciaires.
Non, mais s'il est sincère dans ça, ça veut dire que sur le champ, quand la famille Chouvia sort de son bureau, il doit suspendre les policiers.
Ça, et il a le pouvoir de le faire.
Voilà, et il a le droit de dire tout de suite, on interdit le plaquage ventral. Et il ne l'a pas fait. On a Lamine Dieng, Ramata Dieng, qui a fait une pétition et qui se bat aussi depuis 12 ans. Notre ministre de l'Intérieur, M. Castaner, n'est pas sincère du tout.
Juste un détail sur le plaquage ventral, parce que c'est enseigné dans les écoles de police, à votre connaissance ? Oui, c'est enseigné.
Il y a même des circulaires qui donnent des règles précises qui montrent que les formateurs ont connaissance des risques et des dangers du plaquage ventral, puisqu'ils disent qu'il ne doit pas durer plus d'un certain temps, très rapide, qu'il doit s'arrêter immédiatement lorsque le menottage est réalisé, parce que l'on sait, et c'est d'expérience, il y a eu des morts, que cette technique finalement entraîne une asphyxie et entraîne le fait que les personnes se débattent encore plus parce qu'ils sont en plaquage ventral et que ça accentue finalement l'effet d'asphyxie.
Oui, il existe d'ailleurs une jurisprudence à ce propos, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, en 2007, a condamné la France. Alors, dans le cas de M. Mohamed Saoud, si je ne me trompe pas, qui est mort en 1998 après avoir subi un plaquage ventral de 30 minutes par plusieurs policiers. Et la justice française a considéré qu'il n'y avait pas de faute pénale de la part des policiers. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme, derrière, a estimé que... il y avait un défaut de justice par la France envers la famille de la victime.
Et en 2017 aussi, et la France a déjà condamné des fonctionnaires de police pour ce type de pratique, notamment dans l'affaire Hajimi, c'était à peu près en 2007 aussi, la cour d'appel.
Défendu par le MIB, le mouvement des banlieues, l'immigration.
Il était défendu par Henri Leclerc, qui s'est battu pour obtenir une condamnation. Il a été condamné pour le même type. Les fonctionnaires de police ont été condamnés pour le même type de plaquage par la justice pénale. Donc on a bon espoir d'obtenir justice, mais ça va être un long combat, comme celui de la famille d'Adama. C'est toujours un long combat. On sait que tous les dossiers de violence policière sont des longs combats. Ce sont des combats, malheureusement, qui nous obligent à ne pas faire que du droit, qui nous obligent à faire aussi du média, de la communication et de la politique. Malheureusement, parce que la justice ne se suffit pas à elle-même dans les dossiers de violence policière.
On a tout dit, provisoirement. Merci à tous les trois. Merci à toutes les deux d'avoir eu cet échange.
Je peux juste rajouter quelque chose. On donne rendez-vous à M. Castaner le 4 mai. Quand l'expertise redemandée par les gendarmes, par la justice.
C'est là combientième.
On est à la sixième, nous sommes dans une guerre d'expertise. Et on lui donne rendez-vous.
Sur les raisons de la mort de Adama Traoré.
Bien sûr. Les raisons, elles ont été dites en février 2019, mais on lui donne un rendez-vous le 4 mai. Et on espère qu'il y répondra présent et qu'il fera le nécessaire et qu'on aura la mise en examen des gendarmes.
Merci à toutes les deux, merci à tous les trois.
Merci
de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.